Bon. Mais Jean-Jacques Velasco, quand vous contactez des scientifiques pour vous aider à élaborer quelque chose, j'imagine que ça vous arrive. En France, ça se passe comment?
Ça se passe comme par exemple, il y a quelques années, dans une émission de télévision où il y avait justement Marie-Thérèse de Brosse et le représentant d'un éminent journal scientifique, La Recherche. Quand la question a été évoquée, il a simplement répondu que cette question était un aimable divertissement de salon.
Oui, mais je l'ai revu dans le train après et il a dit, il a fini par me dire, je lui ai fait lire quelques pages de votre livre, Marie-Thérèse, que j'étais en train de finir de lire,
oui.
Et il a dit, wait and see.
Bon, mais non, je voudrais revenir quand même
mais
sur...
Mais en public, la position étant...
Oui, mais il y a surtout aussi le fait souvent que dans une certaine, entre guillemets, intelligentsia, ça fait très bien de parler de ce sujet avec un certain côté ironique ou de moquerie. Bon, il est bien évident que, d'ailleurs ça implique cette façon de présenter le sujet des gens ne témoignent pas. Parce que, imaginez les pilotes. Et c'est pour ça que je reviens à ce cas de janvier 94. Imaginez un pilote qui est responsable de la sécurité du vol avec des passagers, ou même un pilote militaire, qui irait raconter ce genre d'histoire, entre guillemets, à sa hiérarchie. Je peux vous donner mon billet que cette personne a de fortes chances de ne plus voler.
Finir dans un placard.
Donc je pense qu'il y a une très grande réticence à ce que des gens témoignent et des gens qui ont des responsabilités dans le cadre de leur travail. Mais pour en venir sur le plan de la perception qu'ont les scientifiques de ce domaine, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui choque les scientifiques, c'est souvent parce que on n'a pas dans ce débat sur cette question des phénomènes aérospatiaux identifiés ou des ovnis, en fait, les critères de la recherche qui sont, en fait, une méthode de travail qui permet de savoir si un sujet peut être pris en compte par la science. Et donc, je crois que là, il y a tout un ensemble de questions sur lesquelles les scientifiques doivent donc se déterminer. En particulier, et c'est fondamental, le phénomène est-il reproductible? On l'a évoqué à plusieurs reprises. Je crois que c'est fondamental pour le scientifique parce que la reproductibilité d'un phénomène, c'est de pouvoir émettre par exemple une hypothèse et de vérifier expérimentalement si cette hypothèse correspond
La science a un peu changé là-dessus. Elle commence à étudier les phénomènes reproductibles.
Mais ce sont déjà des fondamentaux que beaucoup de scientifiques prennent comme, en fait, presque comme critères.
Pas les jeunes scientifiques.
Oui, mais enfin, quand même, la science est là pour
proposer des modèles. Attendez, oui, quand même. Mais... J'ai pas terminé le raisonnement. Donc je crois que déjà c'est un premier critère. Deuxième chose, peut-on donc expérimenter, peut-on modéliser des phénomènes.
Et peut-être qu'il faut faire la science autrement, Jean-Jacques Velasco.
Mais je vous dis simplement ce que les scientifiques
vous renvoient.
Me renvoie quand j'évoque cette question à leur regard. Moi, je peux vous dire que je travaille avec rigueur sur les mêmes méthodes qu'eux et je n'ai pas une perception ni une écoute de la part des scientifiques sur ce thème. Et pourtant, on l'a signalé tout à l'heure, les travaux qui ont été présentés par le CEPRA, donc à Pocantico, à ce panel de scientifiques de très haut niveau, ont été les seuls qui ont été accrédités du label scientifique. Donc, le problème pour nous, c'est d'arriver à montrer...
dans le Wall Street Journal, dont on sait que c'est une publication ufologique, oui. N'est-ce pas, oui. Ou dans le Washington Post,
ils aiment bien les
blanc,
alors, je crois
blanc en France. Hein.
Alors, je crois qu'on peut trouver un biais. Et ce biais, c'est par exemple, s'il y a des éléments qui ne respectent pas les éléments physiques compréhensibles aujourd'hui, eh bien, cela, pour l'instant, c'est du domaine de la spéculation. Par contre, certains aspects peuvent... d'ores et déjà être interprété par des physiciens pour pouvoir apporter des réponses. Mmh. Et quand on parle, par exemple, des paralysies dont on a évoqué le cas avec cette personne qui, à Valensole, disait qu'elle avait été paralysée par un espèce de bâton, eh bien, aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction que de dire qu'avec des micro-ondes pulsées, on est capable de générer au niveau du cerveau un certain nombre d'éléments qui provoquent des paralysies du système nerveux.
Donc partons pour une recherche pluridisciplinaire avec les civils.
C'est totalement le cas.
Jean-Luc Rivera.
Oui, je voulais simplement intervenir au niveau de la recherche scientifique. Bon, j'appartiens à un petit groupe d'amateurs intéressés qui essayons de retrouver toutes les thèses qui ont été écrites sur pour comme mémoire de DEA, de doctorat, etc., des thèses universitaires. Alors, je peux vous dire que, pour l'instant, nous en avons 60 au niveau mondial. À partir de 1950 jusqu'à aujourd'hui, il y a 60 thèses recensées qui ont traité du sujet OVNI au niveau mondial. C'est quand même très peu. Et en plus de ça, sociologie et beaucoup plus récemment, oui, de psychologie. Voilà.
Donc, vous voyez, pas de physicien, pas d'astronome,
quasiment rien. En physique, etc., justement, entre autres, peut-être
publiquement.
Non. Bon, alors Michel Serradi, il n'y a jamais eu la science d'une part et les mythes de l'autre, donc moi j'espère bien que la jonction va pouvoir se faire. En fait, si je dis cette petite phrase, ça ressemble à « on va se quitter ». On va se quitter, peut-être, je suis sûre que vous restez très frustré parce que vous n'avez pas pu développer tout ce que vous auriez pu dire, mais je tiens à vous remercier. Peut-être un mot pour se quitter, Jean-Jacques Velasco ?
Bien, pour dire que, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons mis en évidence, grâce à 25 années de collecte d'informations, la réalité d'un certain nombre de phénomènes pour lesquels aujourd'hui, ni sur la nature, ni sur l'origine, nous ne pouvons nous prononcer.
Marie-Thérèse de Brosse.
Oh, tout simplement, je dirais aux sceptiques qui pérorent sans connaître le dossier, il n'est de pire sourd que qui ne veut entendre.
Qu'il d'aborder?
J'ajouterais juste un mot, c'est qu'il y a cette politique du secret dont j'ai parlé, mais je pense qu'il y a des indices qui donnent à penser qu'il y a aussi des efforts de levée progressive du secret, à petits pas.
Jean-Luc Rivera.
Je terminerai aussi sur une note optimiste en disant que, bon, après, en suivant l'exemple du CEPRA, maintenant il y a des pays comme le Chili, comme l'Espagne, qui sont en train d'établir des commissions officielles et que donc on peut espérer avoir des réponses bientôt.
Et tirons notre chapeau bien bas aux pilotes espagnols qui ont été les premiers à cracher le morceau, hein, les pilotes de l'armée et les pilotes civils.
Hein. Écoutez, je vous remercie. Je remercie aussi ceux qui ont bien voulu cracher le morceau dans le micro pour le documentaire, Francine Fouéret, Michael Lecomte, Freddy Legrand, Gérard Colmand, deux anonymes et non pas deux Monsieur X, puisque j'ai appris que ça ne
Monsieur
se faisait
D.
pas.
Monsieur D.
Je remercie aussi Arthur Gerbeau qui avait fait la prise de son et puis François Teste, bien entendu.